le patron te raconte que t'es adroit et gentil. Sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gars.
Bienvenue à la si complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Bienvenue à l'émission La Complainte du Travail. Une émission, on vous le rappelle, qui vous est présentée par l'organisme Illusion Emploi, un organisme communautaire de défense et de promotion des droits des travailleurs et des travailleuses non syndiquées. Alors, cette émission-ci vous est présentée un mardi sur deux. On vous rappelle que c'est en alternance avec Tant qu'à consommer de l'organisme LACEF Estrie. Alors, aujourd'hui, on a choisi de traiter de la hausse des frais de scolarité. Et pour ce faire, on a une personne qui s'y connaît bien. Alors, Simon Drouin, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Simon, tu es stagiaire à la TROVEP, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement.
Peux-tu nous expliquer ce qu'est la TROVEP?
En fait, la TROVEP, c'est un regroupement d'organismes communautaires. Ces organismes travaillent sur des dossiers qui les touchent tous, en fait, des points de rassemblement dans leurs intérêts.
Comme quoi?
Par exemple, certains dossiers comme la hausse des frais de scolarité qui touchent l'ensemble de la population. Certains autres dossiers comme les logements.
Le rehaussement du financement.
Oui, exactement. Exactement. Tous les organismes communautaires ont un point commun, c'est que le financement est difficile à trouver, surtout avec les récentes coupures là, du gouvernement dans le domaine.
Mm-hmm, effectivement. Et pour ceux et celles qui ne le savaient pas, parce que ce n'est pas des choses qu'on dit à toutes les émissions, sachez que Illusion Emploi est membre de la TROVEP. On a également le mouvement des chômeurs et des chômeuses et la LACEF Estrie, un paquet d'organismes qui ont principalement, parce que ce n'est pas tous les organismes, mais en commun de faire entre autres la défense collective des droits là, de tous les citoyens et citoyennes.
Corrige-moi si je me trompe, il y a 12 organismes sur 17 de la TROVEP qui sont dans la défense collective de droits.
Effectivement. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas loin. Alors aujourd'hui, on s'attarde à la hausse des frais de scolarité. Simon, peut-être expliquer aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent avant de commencer, ça ressemble à quoi la situation d'une étudiante ou d'un étudiant là? Financièrement parlant?
Bon. Être étudiant et étudiante, c'est avant tout aller à l'école, on s'entend. L'école, ça prend du temps, ça prend aussi de l'argent. Et un étudiant, à la base, n'a pas les emplois les plus rémunérants.
Effectivement, que tu n'as pas le salaire d'un ingénieur quand tu es aux études. Habituellement, tu es une petite coche en bas de ça.
En fait, pas mal sur la coche la plus basse. La majorité des étudiants sont sur le salaire minimum.
Mm-hmm. Qui est, pour ceux et celles qui nous écoutent, de 9,65 $.
Oui, c'est ça, dernièrement. Mm. Donc, les frais de scolarité en ce moment, le prix que ça coûte aller à l'école pour un an là, à l'université, c'est 2 000 $ par année. Ça compte pas les livres, tous les frais technologiques d'imprimerie, d'association étudiante, tout ça. Donc, en tout, on rajoute 700 $ par année de frais afférents aux frais de scolarité.
Ça, c'est pour avoir le droit d'aller à l'université.
Voilà, ça, c'est pour passer son année à avoir ses crédits, okay. Progresser dans ses études. Là. Ça, c'est ce que ça coûte, 2 700 $ par année, grosso modo.
OK. Est-ce que c'est tout?
Ben en effet, c'est pas tout, c'est loin d'être tout. Parce qu'on s'entend, les étudiants, c'est un peu dommage, mais ils doivent manger et se loger. C'est...
ça fait un peu partie des vies. Alors, se nourrir, se loger, effectivement, ça coûte cher, ça?
Si on prend un petit loyer, là, que c'est presque irréaliste, un loyer en colocation de très, très de base, là, puis on dit 300 $ par mois, là, puis là, c'est vraiment pas beaucoup, ça fait 3 600 $ par année. Pour la nourriture, selon des études qui ont été faites, en bas de 6,4 $ par jour, c'est impossible de se nourrir comme il faut. Donc, si on prend ce montant-là, puis à peine plus, on tombe à, bon, on va dire, 70 $ par semaine d'épicerie.
C'est par jour, par repas, par personne.
Par jour, par repas, par personne. Ouais. Donc, 70 $ par semaine, là, c'est un strict, strict minimum. Mm. Tandis que c'est possible, la personne mange de façon, tu sais, correcte, mais c'est vraiment pas un luxe, puis il faut serrer la ceinture, regarder les spéciaux, puis faire vraiment attention. Et encore là, avec ça, on rajoute 3 600 $ à ce qu'on avait, le 3 600 $ de loyer, le 700 $ de frais afférents, le 2 000 $ de frais de scolarité. Donc là, on tombe à 9 900 $ pour une année d'études. Mais là-dedans, on compte pas le linge, on compte pas le savon à vaisselle, on compte rien de la vie courante, on compte pas le transport, on compte rien de ça.
C'est vraiment des chiffres conservateurs que tu nous présentes, là. C'est vraiment le minimum que ça peut coûter réalistement à une personne étudiante.
Oui, même c'est un minimum à la limite impossible. Mm-hmm. C'est plus le minimum, là.
On voulait tellement pas se faire taxer d'être irréaliste qu'on est allé dans le...
Mais voilà, à l'inverse. Voilà. Puis déjà là, déjà avec un 9 900 $ comme ça, si on fait les calculs un petit peu, là, ça représente 7 mois de travail à temps plein. Au salaire minimum. Une fois que tu enlèves l'été là-dedans, tu enlèves 3 mois et demi à peu près de travail, le temps plein toute la semaine, ça pendant l'été, que tu fais juste ça, il reste quand même 640 heures à travailler dans l'année scolaire. Okay?
Et là, on s'entend, Simon, c'est si la personne est chanceuse, qu'elle n'a pas été mise au chômage, qu'elle n'a pas perdu son emploi, que son emploi a été stable.
Ben oui, c'est un emploi à temps plein.
C'est ça.
Un emploi à temps plein, c'est relativement rare quand même. Mm-hmm. Là, donc, 18 heures par semaine, ça que ça représente pendant toute l'année scolaire. Je veux dire...
Ça commence à faire beaucoup, là, en alternance avec les études, parce que je sais pas combien d'heures de temps les universitaires passent aux études, mais ça doit être...
Pour une session de 5 cours, ce qui est assez régulier pour un bac, c'est 3 heures par cours, donc 15 heures par semaine d'études dans la salle de classe.
Mm-hmm.
Mais on s'entend qu'on est à l'université ici. Donc, entre les cours de... chacun des cours, là, il y a beaucoup de travail à faire en dehors, il y a souvent des travaux à remettre, il y a énormément de lectures, en fait. Fait que pour un étudiant qui est minimalement assidu, il faut qu'il mette au moins autant de temps en dehors de ses cours qu'il est dans ses cours. Donc, on rajoute un 15 heures par semaine en dehors des cours là, d'études, puis tout ça. Puis ça c'est,
pour un total de 30 heures d'implication scolaire.
30 heures d'implication scolaire. Puis ça, encore là, c'est assez conservateur. Là-dedans, il n'y a pas les pauses, il n'y a pas les dîners, tu sais, fait que ces 30 heures, c'est minimal. Puis là-dessus, rajoute le 18 heures par semaine là, de travail. Là. On est rendu à 48 heures. La personne, elle s'est pas faite à manger. La personne, elle s'est pas transportée. La personne s'est pas changée pour aller à sa job.
Ouais. Ça, Simon, c'est un constat. Là. C'est un constat que les jeunes actuellement, même avant qu'on hausse leurs frais de scolarité, ils sont obligés de travailler durant leur année scolaire. C'est pratiquement impensable, à moins vraiment d'avoir des parents qui sont... quand même assez aisé financièrement pour pouvoir subvenir à une grande partie des besoins.
En effet.
Ce qui n'est pas nécessairement... ce qui n'est pas le cas de la plupart des familles, si je ne me trompe pas, on s'entend. Là.
C'est ça.
Bon, ça, c'est un constat. C'est désolant, mais c'est un constat. Ma question, c'est si le gouvernement hausse les frais de scolarité, là, ce que j'ai entendu à travers les branches, c'est qu'il va aussi hausser le système de prêts et bourses. Fait que, est-ce que vraiment ça va avoir un impact pour les étudiants et les étudiantes? Ou bon. Si ça va rester, c'est désolant, mais ça va rester la même chose qu'ils sont actuellement, là, le même problème qu'ils ont là, pas pire.
OK, bien en fait, c'est la hausse des prêts et bourses qui est annoncée. Est-ce que ça va être surtout des prêts? La tendance semble indiquer que ça va être surtout des prêts qui vont être avancés que des bourses.
OK.
Et même à ça, mettons qu'on laisse cette question-là en suspens, mais on n'est pas certain, on ne sait pas à quel point que le gouvernement va être de bonne foi pour ça. On se doute, si on regarde précédemment, que c'est surtout les prêts qui vont être mis de l'avant. On
s'entend. En 2003, c'est clairement ça qu'il a fait. Là. Il a augmenté les prêts, puis il n'a pas augmenté les bourses. Là.
Bon, mettons qu'on laisse le bénéfice du doute, on va être vraiment gentil. Tout ça, ce qui est annoncé, c'est que, en fait, en ce moment, il y a seulement 20%, mais un petit peu moins de la population là, qui a accès au système de prêts et bourses. En fait, que les parents, en fait, la situation remplit les critères là, pour donner un accès aux prêts et bourses aux étudiants. Il y en a seulement 20%, donc environ une personne sur 5. Un petit peu moins. Puis ça va pas changer. Ça. Le prochain système de prêts et bourses qui a été annoncé, il n'y a pas plus de gens qui vont y avoir accès. Ça va être encore là des gens dans une situation très restreinte.
Fait que si je comprends bien, c'est qu'il y a 20% de la population étudiante qui, si le gouvernement accepte de bonifier les bourses et non pas les prêts, vont voir leur situation rester statu quo. Si on s'entend que si le gouvernement augmente les prêts, on endette notre population étudiante.
Oui.
Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le 80% de la population étudiante qui n'a pas accès aux prêts et bourses, lui, va devoir amortir l'ensemble de la hausse des frais de scolarité. Oui. Donc, il va falloir ajouter ça au budget que tu nous as présenté tantôt.
Clairement, puis la hausse, exactement ce que c'est, on ne l'a pas encore dit, c'est 1 625 $ de hausse totale là, sur 5 ans. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que dans 5 ans, la facture totale d'une année va s'élever de 1 625 $.
Pour un total, si j'ai bien lu, 3 793 $ par année. En 2017.
Oui, exactement, en 2017. Donc, ça va être une augmentation de 325 par année à partir là, de 2012.
Et le gouvernement aussi annonçait qu'il allait l'indexer ce montant-là à chaque année.
Mm-hmm.
Le problème, c'est que nos salaires ne sont pas indexés à chaque année.
Non.
Hein, on s'est entendu que le salaire minimum, il n'augmente pas nécessairement à chaque année. Dans les dernières années, il a augmenté. Ouais. Ça ne couvre pas toujours l'augmentation du coût de la vie. Puis le rythme de vie, lui, augmente. Là, tu vas nous indexer un frais de scolarité, mais tu ne nous indexes pas nos salaires. On s'appauvrit à chaque année. C'est ce qu'il faut vraiment comprendre. Bon, Simon, moi, j'ai une autre question pour toi. Là, c'est correct, on a vu l'impact que ça allait avoir chez les étudiants. Les étudiantes, on comprend, on les appauvrit.
Oui, puis j'aimerais juste rajouter un petit mot là-dessus. C'est que en fait, c'est la classe moyenne. On s'entend, les gens qui ont les parents qui ont des salaires assez bas et tout, ils peuvent bénéficier des prêts et bourses. Puis parfois, là, les bourses vont être assez intéressantes. La personne va maintenir un niveau de vie acceptable sans trop avoir besoin de travailler à côté, puis va s'en tirer comme il faut.
En dessous du seuil de la pauvreté, on s'entend, là, mais l'acceptable, entre guillemets.
C'est oui. Ça. La réelle pénalité, elle se fait à la majorité de la population. Donc, la classe moyenne, là, les parents qui n'ont pas excessivement d'argent, qui subviennent leurs besoins de façon adéquate, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens d'investir dans l'université, mais que, selon les chiffres du gouvernement, qui sont, soit dit en passant, assez mésadaptés, ils n'ont aucun accès à des bourses. C'est seulement peut-être une petite quantité de prêts ou des choses comme ça. Puis ça ne règle pas réellement les problèmes. Là. Puis c'est cette classe-là qui est encore plus écrasée. Là. Puis ça creuse, encore une fois, l'écart entre les riches et les pauvres. Là.
Je dis le chiffre sous toute réserve, mais j'ai déjà entendu à travers les branches que le gouvernement calculait que par étudiant à l'université, la contribution parentale devait être d'autour de 6 000 $ Mais personnellement, je connais très peu de familles qui peuvent se permettre de rajouter un 6 000 $ à donner à leur plus vieux ou leur plus vieille qui est à l'université pour compenser, là, ça n'a pas de bon sens. Le 6 000, c'est une grande part du revenu familial, on s'entend.
Oui, clairement, clairement.
Mais c'est intéressant ce que tu nous rajoutes là. Mais Simon, moi, ma question, c'était aussi, bon, c'est correct pour les étudiants, on comprend ça, mais est-ce que c'est vrai que nos universités sont sous-financées? Est-ce qu'il faut, tu sais, est-ce que c'est un constat à faire? Est-ce que nos universités sont moins bien financées que les universités ailleurs au Canada?
Bien, en fait, non. Si on regarde les chiffres, là, le pourcentage du PIB là, qui est injecté dans les universités, c'est plus élevé au Québec que dans toutes les autres provinces. Ça, c'est des chiffres qui sont très clairs là-dessus.
Donc, le Québec donne plus en pourcentage de son PIB aux universités que ce que l'Ontario, en pourcentage de son PIB, donne à ses universités.
C'est ce que je comprends? Oui, c'est ça. C'est que l'université, il y a plus d'argent qui circule, il y a plus d'échanges, il y a plus de...
d'investissement.
Oui, en gros, pour ce qui est de l'État, tout le monde, tout ça, il y a plus d'argent dans les universités, en gros, là, au Québec. Là.
Par tête de pipe, là, par
exactement,
étudiant.
Exactement.
Ce que je comprends aussi dans ce que tu me dis là, c'est que le gouvernement, d'abord, quand il n'arrête pas de nous dire qu'il faut augmenter nos frais parce qu'on paye moins, est-ce que je me trompe si je dis que c'est la portion que les étudiants paient en frais d'admissibilité, là, en frais de scolarité, est moins élevée au Québec que les autres étudiants, que la part des autres étudiants donnent à leur université par le biais de leurs frais de scolarité dans les autres provinces. C'est-tu clair ce que j'ai là? Est-ce que nos étudiants, je vais leur faire plus clair, est-ce que nos étudiants québécois et québécoises paient moins en frais de scolarité que leurs compères ailleurs au Canada?
Oui, très, très clairement aussi.
OK.
Les Québécois ici, en fait, c'est ça en fait, on nous dit que c'est sous-financé parce qu'on dit dans les autres provinces autour, les étudiants paient plus pour leur éducation. En fait, c'est pas calculé selon un besoin ou selon des choses qui manqueraient pour donner une éducation adéquate. C'est calculé selon ce que les autres provinces autour fournissent comme argent, ce que les étudiants fournissent comme argent les autres provinces autour. Et puis là, en fait, il faut regarder qu'est-ce qui est fait avec l'argent. Ça, c'est un point super important parce qu'on beaucoup d'argent, mais mal dépensé, ça donne pas un bon système d'éducation. Donc, il faut regarder, c'est surtout en fait un mal financement là, qui règne dans les universités au Québec, là, davantage qu'un sous-financement. Là.
Juste pour en finir avec le sous-financement, Simon, si j'ai bien compris, au Québec, parce que là, il faut dire une chose, nos étudiants paient moins, mais en pourcentage de notre PIB, les universités reçoivent plus au Québec qu'ailleurs au Canada.
Ouais.
Fait que si je comprends bien, il y a les universités, en plus de la part de financement qui provient des étudiants par le biais des frais de scolarité, les universités reçoivent de l'argent du gouvernement.
Oui.
Ça doit être des fonds de recherche ou des subventions pour les bâtisses, des choses comme ça.
Oui, entre autres, en fait, il y a plusieurs... l'argent du gouvernement va dans plusieurs dossiers là, d'université. Là. Bon, ils ont engagé les professeurs. Mais plus que ça, ces temps-ci, la tendance, c'est surtout d'engager des gestionnaires parce que Ce qu'on veut, c'est que l'université et les entreprises travaillent de pair. On veut créer des brevets dans les universités qui vont après ça faire rouler l'économie. Ce qu'on crée en ce moment, ce n'est pas des diplômes de savoir, de connaissance, de culture. C'est des diplômes applicables directement au marché qui vont créer des profits à court terme.
OK. Alors, je vulgarise, là, mais est-ce qu'on est en train de marchandiser, j'ai bien la misère avec ce terme long,
marchandiser, très clairement.
Notre système d'éducation?
Oui, clairement, ça se voit, c'est limpide.
OK. C'est drôle que tu racontes ça parce que hier à la radio, puis dans le journal cette semaine, j'entendais que la grève à l'Université de Sherbrooke du personnel de soutien allait mettre en danger, entre autres au niveau de la médecine, parce que là, on essaie d'attirer les meilleurs chercheurs, puis on fait des recherches, mais là, si on n'est plus de personnel de soutien, nos recherches stagnent, puis là, les chercheurs qui sont très renommés dans leur domaine vont quitter notre université, puis écoutez, c'est important d'avoir de la renommée. C'est ce que je lisais, puis c'est ce que j'entendais hier à la radio. Enfin, je me dis, mon Dieu, on est vraiment à propos quand on parle de commercialisation du système d'éducation. Est-ce que tu crois, Simon, que le fait que les universités manquent d'argent, on s'entend entre guillemets, c'est ce que le gouvernement nous dit, en tout cas, va affecter la qualité de l'éducation?
Bien, en fait, ici, il y a... Très clairement, il y a des choses qui nous indiquent que non, ce n'est pas directement lié avec l'argent. On s'attend que dans une mesure absurde où est-ce que l'université aurait un financement extrêmement bas, là, à un moment donné, c'est sûr, si tu n'as pas d'argent pour chauffer la bâtisse, ça va bien mal étudier.
Ouais.
Mais dans les conditions qu'on a en ce moment, c'est qu'il faut faire attention pour ne pas voir que le coût d'un diplôme représente la valeur du diplôme. Parce que sinon, ça fait des situations comme on a vu à Londres, afin d'avoir une renommée, l'université, ce qu'elle faisait, non, elle n'augmentait pas la qualité de son éducation, tout ça. Elle faisait juste augmenter ses prix de façon effarante. Comme ça, ça donnait une impression de prestige à tout ça.
C'est intéressant. Mais ma question aussi, c'était, si on met plus d'argent dans notre système d'éducation, est-ce qu'on va avoir une meilleure éducation? Est-ce que cet argent-là va aller à embaucher des professeurs, aller chercher de l'expertise? Est-ce qu'elle va être donnée aux étudiants?
Très bonne question. Si on observe les tendances là, depuis les dernières années, on voit très clairement que le personnel de l'université, là, ce qui a augmenté, là, c'est les cadres, les gestionnaires, là, ceux qui s'occupent justement de toute la paperasse bureaucratique là, qui accompagne la création de brevets et la marchandisation là, des recherches. Puis ça a été coupé, là, l'augmentation de cadres a été prise en fait dans l'effectif de professeurs, entre autres, là, de professeurs et autres, là, ce qui est personnel de soutien, tout ça. Donc, on a coupé les gens qui représentaient directement de l'aide aux étudiants et à leur formation pour augmenter ceux qui participent en fait à la marchandisation du système, donc pour toute la bureaucratie, la création de brevets et tout ça.
Okay. Parce que là, si je comprends bien, c'est quand tu veux aller chercher un partenariat avec des entreprises privées, quand tu veux faire signer des protocoles d'entente, tu as besoin de gestionnaires, tu as besoin de gens qui vont aller chercher des fonds, tu as besoin de gens qui ne sont pas là nécessairement pour les étudiants, mais qui sont là pour attirer les entreprises, pour faire en sorte que ton produit, à la fin, soit marchandisé, puis là, dire aux entreprises, regardez, si vous joignez à notre université, vous allez gagner ça, etc. Puis, dans ce que tu as expliqué, ce que je comprends, c'est que dans les dernières années, la portion de cadres qui a augmenté, on l'a vu clairement diminuer dans la portion de professeurs.
Exactement.
OK. Fait qu'il n'y a rien qui nous laisse croire que si on investit, si je me souviens bien, cette hausse-là totalise 180 millions de dollars de plus dans nos universités, il n'y a rien qui nous laisse entendre que cet argent-là va aller améliorer le système, à risque fort bien de poursuivre
ben, en fait,
dans
selon,
cette orientation-là.
Selon les chiffres de ce côté-là, là, ce qu'on a, c'est qu'il y a environ 1 $ sur 2 de la hausse qui va servir aux universités.
OK.
L'étudiant va s'endetter, l'étudiant va sortir de l'argent de ses poches, mais là-dessus, il y a un de ces 2 $ qui, on s'entend, ces 2 $ à l'étudiant sont restreints. Il n'y en a pas beaucoup de dollars. Un des 2 $ qui va aller le profiter justement à des compagnies et des intérêts privés, là. Ça, c'est clair, clair et précis. En fait, on va prendre l'argent dans les poches des étudiants là, pour encore engraisser les grosses compagnies. Là.
OK. Ah, oh, c'est intéressant, ça, de savoir ça. Puis, j'ai aussi lu à quelque part que le gouvernement avait quand même annoncé que, lui, il y a eu des coupures, là. Il a restreint ses subventions aux universités dans les dernières années, puis que la hausse qu'il vient d'annoncer est vraiment identique à la coupure qu'il a fait dans les derniers budgets dans les frais de scolarité. Fait qu'il n'y a pas nécessairement plus d'argent qui vont aller à nos universités, c'est juste d'où va venir cet argent-là, au lieu de venir du gouvernement. Puis on s'entend quand que l'argent vient du gouvernement, c'est qu'elle a été prise par le biais des impôts. Donc, les gens qui gagnaient plus ont davantage payé que ceux qui gagnaient moins. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on va la chercher uniformément chez les étudiants et les étudiantes, peu importe leur revenu. Fait que c'est vraiment, on nivelle vers le bas. On n'est plus dans la... Dans une fiscalité progressive. On est vraiment dans le chacun sa part, on paye à l'utilisateur, ce qui n'est pas la philosophie de la TROVEP et des organismes communautaires en général. En tout cas, pas ceux qui font de la défense de droit. Simon, j'ai quand même, malgré tout, là, une question qui se... Est-ce que les étudiants paient leur juste part dans le système de frais de scolarité? C'est quand même, je me dis, il ne faut quand même pas tout que soit gratuit. Là. Est-ce qu'ils paient leur juste part? Puis est-ce que... Tu sais, des fois, on entend souvent des personnes qui ont fait l'université il y a plusieurs années et qui disent « Dans le temps, nous autres, on faisait notre part, tout n'était pas gratuit, ben les oui, jeunes, ben oui. à ce temps. » C'est-tu vrai, ça, ce préjugé-là?
Ben écoute, la juste part, premièrement, là, qui est placé pour décider c'est quoi la juste part d'un étudiant? C'est une façon de le croire, de le concevoir. Il n'y a aucune réponse à ça, premièrement. Fait que ceux qui peuvent dire que la juste part est plus haute ou plus basse ou que la juste part, c'était dans les années 1978, en fait, c'est... C'est monsieur... en fait, il y a quelqu'un, justement, en 1968, là, qui a dit ça. En fait, ces temps-ci, récemment, un politicien, il disait que moi, j'ai étudié en 1968, et puis en 1968, là, on va indexer les coûts là, pour faire ça équivalent, là, comme ce que j'ai payé moi en 1968. C'est ça qui était correct, c'est ça la juste part, puis il faut que ça revienne comme ça. Mais en fait, ce qu'il n'a pas annoncé, ce ministre-là, c'est que en 1968, c'était là, les toutes premières universités qui venaient juste d'être créées au Québec. C'était un système extrêmement élitiste où est-ce qu'il y avait là, très, très peu d'étudiants. Donc, on s'entend, c'est certain que ça coûtait cher. Ce qu'il ne nous dit pas, lui, c'est que 10 ans après, quand il y a eu le boom, là, quand il y a eu la décision du Québec d'implanter un système universitaire à grande échelle, accessible à tous...
Là, on parle de l'implantation des universités du Québec à Montréal, à Chicoutimi, à Trois-Rivières, à Rimouski, là, toutes ces universités-là. Là, qui est super.
Exactement, toute la grosse bâche d'universités. Mais en 1978, là, ça prenait là, 4 semaines à un étudiant à temps plein salaire minimum pour payer là, son année à l'université.
Frais de scolarité, on s'entend.
Oui, okay, ouais, c'est ça.
La portion des frais de scolarité. Oui,
c'est ça. Pour payer, on ne compte pas les loyers là-dedans, la bouffe, tout ça, mais on compte là, les études carrément, là, les crédits, là, les cours. Là. Bon, ça y prenait 4 semaines en 1978. En 1989, ça y prenait 2,8 semaines. Là, il y a eu un gel, tout ça, donc les frais sont restés les mêmes et tous les salaires ont augmenté, donc on est tombé à 2,8 semaines. En 2000, là, il y a eu une coupe de hausse. Dans les années entre 92 et 98, il y a eu des hausses. Donc en 2000, on était rendu à 6 semaines, donc ça a doublé le temps qui était nécessaire à travailler. En 2012, on était à 6,7 semaines. Puis en 2015, là, si on estime un salaire minimum à 12 $ de l'heure, ce qui est pratiquement utopique et réaliste, on est à 8,8 semaines de travail à temps plein. Donc, la juste part, non. Ce qu'on voit, c'est que les étudiants doivent faire une part de plus en plus grande pour leur étude. Là. Donc, la juste part là-dedans, c'est une question de valeur et d'idéologie. Là. Il n'y a pas de juste part officielle.
Puis ça ramène aussi tout le débat sur est-ce que les dollars que le gouvernement dépense en éducation, est-ce que c'est des dépenses ou si c'est un investissement dans une population qui a des chances après ça de redonner à la société, redonner par le biais des impôts si cette personne-là fait beaucoup de sous. Mais il y a aussi une question d'idéologie aussi, là, je ne sais pas. À quoi doit servir l'éducation?
Mais c'est ça la question. Ce qu'on a fait comme choix au Québec en ratifiant des traités là, en 1976, en fait un traité qui disait que l'accessibilité aux études devait être à tous... Et ça devait être instauré progressivement, là, entre autres par la gratuité. Là, c'est pas
là tu fais référence au Pacte international sur les droits économiques et sociaux qui a été ratifié par le Québec.
Voilà, en 1976. Dans ces années-là, c'est là qu'on a implanté le système massif d'éducation. C'est là qu'en 1989, on a eu un bas mondial de 2,8 semaines pour financer. Et ça, on s'attend que c'est vraiment pas cher. Dans ces temps-là, on se disait que...
Puis on s'est engagé aussi, comme tu disais, à aller vers la gratuité scolaire. Puis dans ce temps-là, excuse-moi, je t'ai coupé.
Oui, on avait justement cette volonté-là. On s'est dit que, regarde, ce que ça prend, là, ce qu'on veut, nous, c'est tout le monde qui peut aller à l'université, tout le monde qui peut apprendre, tout le monde qui peut se développer là-dedans puis avoir une grande culture, là, que le Québec soit riche en culture, riche en idées, riche en innovation.
Vraiment un choix qu'on a fait, là. Puis que là, on est en train de déconstruire.
C'est ça, là, on a fait ce choix-là dans les années 1970. Là, en ce moment, on est en train d'aller vers l'autre côté, on est en train d'aller vers l'économie, Et ça, à court terme, les profits à court terme et le bénéfice aux plus riches.
Ouais. À la base, quand les universités ont été créées, l'université servait aussi à développer des citoyens, à faire en sorte de développer les consciences, etc., de transmettre le savoir.
L'esprit critique.
Puis là, on est en train de former des travailleurs, puis former de la marchandise pour les entreprises.
Des produits. La personne qui sort de l'université doit servir à, en peu de temps, créer de la richesse. Là. On s'entend, le diplôme est utilisé à des fins commerciales. Là. C'est la direction qu'on est en train de prendre en ce moment avec la hausse.
C'est vraiment intéressant, Simon, cette discussion-là, vraiment, là, j'apprécie. Simon, juste avant d'aller à la pause, j'aimerais qu'on ait une discussion sur est-ce que ça va affecter la hausse des frais? Parce qu'elle a été annoncée, là, je veux dire, là, on va tantôt on parlera de ce qu'on va faire pour que le gouvernement recule, puis on sait que le gouvernement a tendance à reculer quand la population sort en masse. Mm-hmm. Mais est-ce que ça va affecter la fréquentation scolaire? Parce que ma première question, c'est ça. Est-ce que ça va affecter la fréquentation scolaire?
C'est sûr que là, regarde, le futur, on le connaît pas. Là. La hausse n'est pas encore arrivée. On le connaît pas. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est regarder les autres hausses dans les conditions semblables qui ont été amenées précédemment. Puis regarder qu'est-ce qui s'est passé selon les chiffres là, au Québec là, lors de la dernière hausse. Entre 92 et 98, il y a eu une hausse. Et puis, dans cette période-là, là, c'est très clair, il y a eu une diminution de 5% d'accessibilité aux études, là, tout simplement. Puis après ça, il y a eu un gel, puis ça l'a remonté. C'est carrément là, c'est 1 plus 1 égale 2. Là.
J'imagine que le 5% de moins de fréquentation scolaire, suite au dégel des frais de scolarité en 92-93, c'est pas la population la plus riche de notre société qui l'a vécu. Là.
Certainement pas. C'est les gens qui, déjà là, devaient mettre des économies de côté et devaient s'efforcer et vraiment se donner là, pour être capable d'étudier. Là, ceux qui faisaient les plus grands efforts, c'est eux qui ont été coupés là-dedans. Là.
Simon, je veux pas t'ostiner. Je suis d'accord avec le chiffre que tu fais, mais si je me trompe pas, en Nouvelle-Écosse, les gens paient beaucoup plus cher qu'au Québec pour étudier. Vrai. Puis pourtant, ils ont beaucoup plus de monde à l'université que nous autres au Québec.
Vrai. Bon, écoute, c'est sûr, les chiffres, là, regardez ça vite comme ça, ça peut faire des analyses trompeuses comme celles que tu viens de me donner. Là.
T'es en train de dire que je mens, là, moi, là? Non, vas-y, continue. Déconstruis-moi ça.
En Nouvelle-Écosse, ce qui arrive, là, si on regarde directement la fréquentation universitaire, oui, la Nouvelle-Écosse, là, si on prend une photo là, de le nombre de personnes à l'université pendant un moment, c'est plus haut qu'au Québec. Ce qu'il faut regarder là-dedans, là, c'est que là-bas, en Nouvelle-Écosse, ils n'ont pas une institution particulière qu'on a au Québec qu'on appelle le cégep. Donc, ce qui fait que tous les gens toutes les infirmières...
Tous les gens qui, ici au Québec, font des techniques.
C'est ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de professionnels là, qui vont au cégep et qui, après ça, sont sur le marché du travail avec tout ça.
Là-bas, il n'y en a pas. Fait que ces gens-là, ils passent directement à l'université.
Mais voilà, puis l'université dure 4 ans. Donc, c'est sûr, si tu prends un moment, vu que le bac est de 4 ans, il y a plus de gens, premièrement. Puis au Québec, c'est clair, si on additionne le nombre de personnes qui sont au cégep et à l'université, là, si on fait la fréquentation post-secondaire, là, le Québec est bon premier. Là. Ça, c'est clair et net là, qu'on paye moins cher, mais il y a aussi plus de gens éduqués ici. Là.
Fait que les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Simon, on part en pause, on fait un petit saut en musique, puis on revient tout de suite après. Alors, on vous dit, restez à l'écoute.